Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec la Friday Team, l'équipe du vendredi. Marion est là ce soir, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu, salut à tous les cinq.
Bonsoir,
au sommaire ce soir, un événement qui a changé le cours de l'histoire, des amateurs et le retour d'une tendance, celle du quart d'heure américain.
Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs.
Donc oui, on est fiers d'être des amateurs.
Alors monsieur, les filles qui font le premier pas, on en pense quoi? Est-ce que vous restez sensible à certains codes de galanterie?
Je pense que c'est pas mal.
L'Amérique frappée au cœur.
Scène d'apocalypse, de guerre même.
Une heure après la première déflagration à 10h, l'une des tours jumelles s'effondre.
And all of a sudden I turned my head and the building imploded.
Les États-Unis s'apprêtent à commémorer les 20 ans des attaques terroristes les plus terribles perpétrées sur leur sol.
C'est la liberté qui a été attaquée ce matin.
Autant de sujets qu'on évoque avec nos invités avant de recevoir deux anciens du Splendide et la relève.
Ça va ?
Alors voilà, on est une famille.
Papa !
Oui, enfin sur scène. Hein.
Papa ! Calmez-vous les enfants.
C'est une pauvre chose, c'est une pauvre victime.
Vous allez !
C'est un cas social, mais qui le sait pas.
Ils ont bloqué tous nos comptes, on n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison.
Ton avenir est complètement bouché. Hein.
C'est ça que je tire. Hein.
C'est son premier passage chez nous. Bonsoir, Arthus.
Bonsoir.
Tout le monde est des comédiens ici.
Ça c'est mauvais, c'est pas l'entrée qu'elle a ça dans la bouche, c'est pas celui à quelqu'un d'autre, quoi.
Et oh, qu'est-ce qu'il lui faut là ? L'amour. L'amour, la sécurité, l'argent, tout ça.
Bon, mais toi, te gêne pas surtout, hein ?
Et je compte sur vous pour amener de quoi dîner ce soir.
Marianne Chazelle, Gérard Jugnot et Arthus sont nos invités du dîner. Dîner préparé ce soir par Georgiana View, chef du restaurant Rouge à Nîmes. Et ce soir, c'est le Gard que vous représentez, chère Georgiana.
Tout à fait, Anne-Elisabeth. Bonsoir.
Bonsoir. Avec un petit retour du potager.
Exactement. En fait, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des artisans... très très bien. Et là, en l'occurrence, ça s'appelle la coccinelle bleue et j'ai récupéré quelques légumes que je vais vous faire goûter avec une base de riz de Camargue.
Eh oui, la Camargue, forcément, puisque pour présenter le Gard ce soir. Merci beaucoup, Georgiana.
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonsoir, Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, Elisabeth.
Journaliste politique, chroniqueur sur LCI. Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat le plus déjanté de l'histoire de la Ve République, c'est le livre.
Vous vous rendez compte ?
dont on parle entre autres ce soir. Thomas Legrand, vous êtes éditorialiste sur France Inter. On va commenter l'actualité politique qui est marquée par une information qui vient de nous parvenir. À 18h52, le parquet général de la Cour de justice de la République a mis en examen Agnès Buzyn, l'ancien ministre de la Santé, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Patrick,
oui,
un premier
après une audition d'une dizaine d'heures, puisque Agnès Buzyn est arrivée ce matin vers 9h30 auprès des magistrats de la Cour de justice de la République. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est un délit qui est généralement réservé aux infractions routières. Il faut qu'il y ait une violation délibérée d'une obligation de sécurité, un défaut d'application de la loi ou d'un règlement. C'est ça qui est prévu. À noter que les juges ont changé d'incrimination, puisque, on l'a dit hier, l'information judiciaire qui avait été ouverte il y a un peu plus d'un an par le parquet général l'avait été pour omission de combattre un sinistre. On l'avait... développé hier après-midi, les juges ont choisi finalement cette incrimination. Là, sans qu'on sache évidemment ce qu'il y a dans le dossier, quelle est l'obligation de sécurité, la loi ou le règlement que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, jusqu'à la mi-février, a violé ou n'a pas respecté. Un commentaire, enquête légitime, illégitime, démarche...
Non, légitime.
Légitime.
Ce sont des collectifs de soignants qui disent que quand l'épidémie est arrivée, ils n'avaient pas les moyens de lutter contre cette épidémie. Que les ministres ne soient pas au-dessus des lois, c'est normal. Qu'ils rendent des comptes, c'est normal. La CJR est une institution extrêmement sérieuse
de
justice de la République qui mêle des magistrats et des responsables politiques. Les ministres s'expliqueront. La mise en examen, c'est un coup dur. Elle pensait l'éviter, Agnès Buzyn. Mais, personne n'est condamné. L'enquête suit son cours. Édouard Philippe devra répondre aux questions de la Cour de justice de la République. Olivier Véran aussi. C'est une démocratie qui fonctionne. Mmh. On a vu à...
La seule au monde. La seule au monde.
La seule au monde.
La France est le seul pays
qui juge
où un ministre est poursuivi pour la gestion de la crise sanitaire. Et
l'affaire du sang contaminé nous a tellement traumatisés que nous avons inventé des mécanismes qui nous permettent de regarder l'action des ministres, notamment.
Non, Jean-Michel. D'accord. Justement, sur l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République a fonctionné, elle a relaxé tous les.
Elle a peut-être relaxé. Mais
elle a enquêté.
Ces histoires-là nous ont tellement choqués que. Je pense qu'il est normal que les responsables politiques rendent des comptes dans cette question.
On écoute Agnès Buzyn ce matin à son arrivée, ce matin à l'audition devant la Cour de la justice de la République, et on vous écoute, Thomas Legrand.
Opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement et mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale dont, je le rappelle, elle dure encore.
Thomas Legrand.
On a un exécutif, nos institutions donnent à l'exécutif beaucoup de pouvoir, sans doute trop. Dans l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs. Donc c'est bien.
C'est un rééquilibrage en quelque sorte.
C'est bien qu'il y ait un contrôle. Simplement, moi j'aurais préféré, je pense que les républicains, les démocrates, normalement, et c'est vrai, Patrick le soulignait, on est la seule démocratie à procéder ainsi. Il y a une sorte. C'est un avatar de la judiciarisation, j'avais très peur de dire ce mot, j'y ai réussi. Judiciarisation de la vie politique. Ça serait mieux que le pouvoir parlementaire puisse exercer un contrôle plus fort, plus public.
Avec il y a eu des enquêtes parlementaires. Ils ont été auditionnés par Philippe Agnès Buzyn au Sénat.
Il y a des progrès dans le pouvoir de contrôle du Parlement. Le Parlement fait les lois, mais aussi il contrôle. On oublie souvent cet aspect-là. Et nous, les journalistes, on l'oublie un peu. On ne commente pas assez les moments de contrôle, les commissions d'enquête. On devrait s'y intéresser un peu plus. Moi, je trouve que ça serait mieux que ça soit. Il s'agit des affaires politiques là. Personne n'imagine qu'Agnès Buzyn a voulu
volontairement
faire exprès. En janvier, personne ne savait qu'il y aurait une pandémie comme ça. Elle a, dans son expression, été très maladroite. Elle a dit qu'elle avait en janvier alerté le gouvernement, et puis quelques jours après, elle a dit
c'était une épidémie.
Au contraire, que c'était une épidémie qui ne se répandrait pas. Donc, il y a des choses à clarifier, mais selon moi, ce sont plus des choses politiques que des choses judiciaires. Et donc, c'est toujours comme ça, un peu en France, les pouvoirs ne sont peut-être pas à leur place, les équilibres.
Il n'empêche, les responsables politiques s'inquiètent de cette judiciarisation qui pourrait inhiber justement les services de l'État et les actions de l'État. Édouard Philippe posait cette question justement devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Il y a une chose qui me paraît devoir être prise en compte par l'Assemblée nationale dans ses travaux. Mais c'est délicat à dire. Et je suis le moins bien placé pour en parler. C'est la question de comment est-ce qu'on gère une crise sanitaire avec des échelons de décision qui sont très dispersés. ARS, ministères, responsables politiques, fonctionnaires. Comment est-ce que vous la prenez? Comment est-ce que vous la gérez quand vous avez immédiatement le risque pénal sur le dos? Si vous voulez faire en sorte que les échelons administratifs ou politiques soient moins réactifs, faites en sorte qu'à chaque élément de décision ou de jour passé, il y ait un risque pénal associé.
C'est le problème du risque d'ouverture générale des parapluies dans les administrations.
Et plus de risques politiques.
Ouais.
Voilà. Les ministres sont responsables. C'est le Premier ministre est responsable devant le gouvernement, devant le Parlement, mais jamais le Parlement ne renverse un Premier ministre parce que la majorité, elle est quasiment automatique. Donc, c'est toujours une question d'équilibre des pouvoirs avec un exécutif hyper puissant en France. Et c'est...
Moi, je ne connais pas les autres pays, mais nous, on a une cour spéciale pour juger les responsables politiques. Ailleurs, je pense que les responsables politiques rendent des comptes aussi devant la justice.
Il y a eu un exemple, c'est le Premier ministre Conte en Italie qui, en mai ou en juin 2020, a été entendu par des juges, mais ensuite, l'enquête n'est pas
allée. Longtemps, il y avait un adage de droit qui disait « le roi ne peut mal faire ». Et donc, l'État n'était jamais sanctionné. L'État pouvait faire ce qu'il voulait, il n'était jamais sanctionné. À la fin du XIXe siècle, la justice administrative et la justice civile, parce que le droit en France est quand même une vieille histoire, ont considéré que l'État devait rendre des comptes. On est dans cette longue lignée, c'est-à-dire que la puissance publique, quand elle agit, elle n'est pas redevable que devant les citoyens, elle est aussi redevable devant les juges. Et c'est très intelligent. Dans 50 ans, un siècle, on ne sera peut-être pas là pour le voir. Ces procédures-là seront très banales et très normales.
Dans votre livre, Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat,
pas,
vous revenez sur le départ d'Agnès
Buzyn,
dépêchant en urgence pour
une
remplacer
belle femme. vous devez être candidate parce que vous êtes une belle femme.
C'est ce que lui dit
François Bayrou.
François Bayrou, qui l'encourage à être candidate à Paris. Elle est dépêchée en urgence pour remplacer Benjamin Griveaux. Elle songe déjà début 2020, alors que la pandémie est là, aux portes de l'Europe. Elle songe sérieusement à sa troisième vie. Elle va de plus en plus mal. Elle écoute François Bayrou de plus en plus. Quand le Covid pointe le bout de son nez, elle ne voit rien, englué dans son brouillard. Donc lui, vous êtes plutôt du côté de ceux qui se disent qu'elle n'a pas anticipé, contrairement à ce qu'elle dit.
Je pense qu'au moment où le Covid arrive, Agnès Buzyn est très mal. C'est quoi les responsables politiques? C'est des êtres de chair et de sang. Il y a des fois, ils ont le moral, il y a des fois, ils l'ont pas. Elle ne l'a pas. Voilà. Elle est empêtrée depuis un an. C'est très intéressant. Ce livre est très intéressant. Mais c'est très intéressant.
Rappelez-moi qui l'a écrit. Ah, Jean-Michel Apathy.
Oui, enfin, il paraît. Hein. Je l'ai lu, en tout cas. La crise de l'hôpital dure depuis un an. Agnès Buzyn tape à la porte de Matignon. Elle se heurte à ce type qu'on ne connaît pas, hein, vraiment. C'est dommage. Hein. Benoît Ribadeau-Dumas, directeur adjoint directeur de cabinet de Matignon, qui ne veut rien entendre et qui gère la crise de l'hôpital d'une manière très dure. Et Agnès Buzyn, qui est issue du monde hospitalier, se coupe de tous ses copains. Elle est prise dans une bataille qui la lamine. Et donc, quand arrive l'opportunité d'aller à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux a quitté la candidature dans les conditions que l'on sait. Bon. Franchement, l'affaire est cuite. Mais elle saute sur l'occasion parce qu'elle ne peut plus être ministre de la Santé. Et donc, quand le Covid arrive, elle n'a pas la sérénité...
La lucidité.
Oui, le recul pour gérer cette crise. Elle est très mal. Vous savez, c'est très dur de parler de la patte humaine dans la politique. Mais ça existe.
Dans votre livre, pour conclure le chapitre sur Agnès Buzyn, vous revenez sur son départ de la vie politique après sa défaite au municipal avec cette phrase assassine. Elle a définitivement quitté le monde des amateurs dont elle a été une digne représentante. Les amateurs avec un A majuscule, ouais, ce sont ceux qui dirigent la France depuis mai 2017, ouais, selon vous.
Ils ont droit à un majuscule, c'est pas mal. Hein.
Et cette expression que vous qualifiez vous-même de vacharde, ouais, c'est une prise de parole d'Emmanuel Macron qui vous en a donné l'idée. Février 2020, le président invite les parlementaires de sa majorité à l'Élysée et il s'exprime devant eux.
Après les tensions de ces dernières semaines, Emmanuel Macron devait se reconnecter avec sa majorité.
Avec un message martelé, celui du soutien et de l'unité.
Si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs.
Donc oui, on est fiers d'être des amateurs, parce que de toute façon, quand les Françaises et les Français ont voté pour nous en 2017 et ont voté pour lui, c'était quand même pour dégager les professionnels.
C'est le terme qui, pour vous, Jean-Michel, définit le mieux ces 5 dernières années. Amateur.
Quand j'ai entendu ça, je me suis tout de suite dit, je peux vous dire que les éditeurs n'ont pas hésité beaucoup, il faut raconter le quinquennat à ce filtre-là. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. Je dis aussi au début que si Emmanuel Macron revendique l'étiquette des amateurs en critiquant les professionnels, il a raison. En 20 ans, le trio, je l'écris, hein, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont plus coulé la France qu'ils ne l'ont rehaussé. Le bilan des trois professionnel est catastrophique. La France est désindustrialisée, la société s'est désunie. Enfin, vraiment, il y a de quoi dire sur les professionnels. Mais les amateurs, on ne peut pas dire que ça soit terrible. Et fondamentalement, Emmanuel Macron est un amateur parce que arrivé à l'Élysée alors qu'il ne pensait pas gagner, quand il est candidat à l'automne 2016, il n'a aucune perspective de victoire. Il aborde la mécanique de l'État en n'y apportant que des mauvaises réponses. Et je raconte notamment que la direction à 4 de la France pendant 3 ans et demi. Et dans ce livre, je ne suis pas le seul à le dire, des responsables politiques reconnaissent que l'organisation, le système qu'a mis en place Emmanuel Macron n'était pas le bon, a causé toute une série de dysfonctionnements. Vous savez...
À quatre, vous dire lesquels?
Alors, le président de la République et le Premier ministre, qui ne se sont jamais vus en tête-à-tête.
Édouard Philippe
et Emmanuel Macron, mais qui ont associé à eux Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et Benoît Ribadeau-Dumas, mon préféré, directeur adjoint, 4 garçons, 4 énarques. Mais quand on regarde un problème à 4, on ne trouve pas la même solution que quand on le regarde à 2. Et la première chose que demande Jean Castex à Emmanuel Macron, c'est « on se voit tous les deux ». Et Emmanuel Macron, quand il le remplace en juillet 2020, et Emmanuel Macron l'accepte. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est Deschamps, j'oublie son prénom à l'instant, le foot.
Didier Deschamps.
Didier Deschamps. Comment on met en place son équipe?
C'est un sélectionneur.
4-4-2, 5-4-2, 8-4-2, 12-4-2. Vous voyez, il y a tous ces schémas de foot qui sont possibles. Et bien Emmanuel Macron, il a pris le plus mauvais schéma possible. Ça, c'est de l'amateurisme.
Régulièrement, dans votre chronique politique de France Inter, à 7h45, vous posez la question, qu'est-ce que le macronisme?
Pas régulièrement, c'est tout le temps.
ça tourne à l'obsession. Vous auriez utilisé le même terme que Jean-Michel Apathy, amateur?
J'aurais pu, mais... C'est pas tellement la méthode, moi, que quand je m'interroge sur qu'est-ce que le macronisme, c'est où ça veut aller, quel est le monde qu'il nous propose, quel est le projet. Après, le problème, c'est que vous dites que les professionnels, ça n'a pas marché, les amateurs, ça ne marche pas.
Il faut des semi-professionnels.
Il faut des semi-pros, faut...
La France, je le dis, est l'unique pays au monde, depuis 1875, à connaître autant de dirigeants. Depuis les débuts de la 5e, nous n'avons jamais réélu les sortants sur leur action. Non. C'est l'unique démocratie.
Les seuls présidents qui sont réélus, c'est après une...
Ils sont dans une cohabitation, ils sont les premiers opposants. C'est la seule démocratie au monde.
Ils sont un peu moins amateurs au bout de 5 ans? C'est la grande question.
Ils ont tout fait tout seuls, surtout. Ils ont tout fait tout seuls.
Ils ont appris. Voilà. Non, ils ont appris. Bien sûr que des boulons ont été vissés alors que ça flottait beaucoup.
Alors, il faut relire République moderne de Pierre Madès, François Sauvage.
Ce qui est drôle, c'est que l'un des personnages de votre livre, et sur lequel vous ne ménagez pas en critique, c'est un professionnel, Gérard Collomb.
Ouais.
Oui. Gérard Collomb, c'est un professionnel.
En 2014, troisième campagne municipale, le jour où il faut déposer les listes en préfecture pour être candidat à la mairie de Lyon, eh bien, il menace de ne pas les déposer parce qu'il est dans une dépression personnelle. Et Emmanuel Macron, je le raconte, nomme Gérard Collomb à l'intérieur. Il y a des gens de son équipe. Pendant la campagne, en 2016, tout le monde est au courant des faiblesses psychologiques de Gérard Collomb, qui sont légitimes, et les raisons lui appartiennent. Hein. Elles ne sont pas dévoilées là. Hein. Et je cite des gens à Lyon. Hein. Je n'invente pas ça du chapeau. Hein. Le nommer à Beauvau, ça n'était pas la meilleure chose à faire. Il y a des gens qui disent à Emmanuel Macron, nomme le gouvernement, mais ne le nomme pas à Beauvau. Tout ça était un peu écrit par avance, hélas.
Dans ce quinquennat le plus déjanté de la Ve République, il y a une figure incontournable, Marine Le Pen, qui a été présente, dont vous dites qu'elle est plus appliquée, plus décidée qu'en 2017. Et pourtant, il va peut-être y avoir un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen, comme le disait hier Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, c'est l'éventuelle candidature d'Éric Zemmour, un sujet d'étonnement que vous traitez ce soir, la banalisation d'Éric Zemmour. Patrick.
Oui, sa banalisation et son installation en douceur comme personnage politique, candidat éventuel à l'élection suprême, dont on débat à longueur de plateau de la stratégie, du potentiel électoral, de sa capacité de nuisance à l'égard de Marine Le Pen ou du candidat de droite, mais presque jamais du fond de ses propos, de son idéologie et de ses imprécations qui marquent pourtant, je le crois, une rupture dans le débat démocratique français.
C'est ce qu'on disait il y a 30 ans de Jean-Marie Le Pen.
On disait il y a 30 ans que le FN n'était pas un parti comme les autres, vous vous souvenez. Et justement, Jean-Marie Le Pen ne s'est jamais complètement banalisé. La droite, avec Jacques Chirac, a su maintenir à quelques accointances près un cordon sanitaire avec le FN, alors qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est jugé fréquentable par un certain nombre de leaders LR. Laurent Wauquiez échange avec lui, Éric Ciotti est prêt à voter pour lui, etc. Avec le recul, la lepénisation des esprits, expression inventée par Robert Badinter il y a 35 ans, apparaît moins forte que la zémourisation du débat public. Et pourtant, malgré ses saillies, ses provocations et ses fréquentations, Jean-Marie Le Pen n'est jamais allé aussi loin qu'Éric Zemmour dans un projet qui sort du cadre républicain. Là où Le Pen prenait une forme de république autoritaire et nationaliste, Zemmour rejette explicitement la République, la philosophie des Lumières, les acquis de la Révolution. Il appelle à rompre avec l'État de droit, qualifié de moyen d'entraver la volonté populaire. Je cite là quelques phrases de son discours d'il y a 2 ans à la convention de la droite de Marion Maréchal.
La question de l'immigration les rassemble?
Pas exactement. Quand Le Pen vantait la préférence nationale ou l'immigration zéro, de même que sa fille aujourd'hui, il arrive à Zemmour d'évoquer une remigration. C'est un terme qui court à l'extrême droite depuis 40 ans, qui a été mis en avant par le bloc identitaire et par le théoricien du grand remplacement Renaud Camus, et qui consisterait à contraindre les immigrés à retourner dans leur supposé pays d'origine. On se souvient de son interview au Corriere della Sera qui avait fait scandale en 2014. Ne pensez-vous pas qu'il est irréaliste de chasser 5 millions de musulmans français? Réponse de Zemmour, je sais c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. Et puis en janvier dernier, dans son émission sur CNews, en défense du bloc identitaire.
Vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire, que l'identité de la France est en danger, et donc c'est dire, voilà, on va renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas. C'est ce qu'a fait la France pendant un siècle.
Vous n'êtes pas raciste.
Mais c'est pas du tout être raciste que de dire ça. C'est, le général de Gaulle n'était pas raciste. Léon Blum n'était pas raciste. Dans les années 30, on renvoie des immigrés italiens et polonais parce qu'ils sont au chômage et qu'on estime qu'ils s'assimilent pas. Bon, et, ouais. c'est la gauche qui fait ça. Ils sont pas racistes. C'est Léon Blum.
Alors, historiquement, c'est faux, comme souvent chez Zemmour. Si le gouvernement Blum a bien procédé à des reconduites à la frontière, il n'a pas expulsé en masse les Italiens et les Polonais, et encore moins les Espagnols qui fuyaient la guerre par centaines de milliers. En tout cas, la propagation des lubies anti-musulmanes d'Éric Zemmour, de ce qu'il appelle la lutte à mort entre les races et les religions, la diffusion d'idées qui étaient frappées d'illégitimité depuis la libération, tout cela pose question, renvoie chacun, médias et politiques, à leurs responsabilités, et je pense, mérite mieux que nos débats politiciens du moment sur la stratégie Zemmour.
La zemmourisation du débat public.
Moi, je pense que Éric Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen en pire. Je dis dans ce livre, je rappelle dans ce livre des propos d'Éric Zemmour qui datent de 2006, mais il n'a jamais varié sur les femmes, l'homosexualité, son homophobie est scandaleuse. Et vous parlez de la responsabilité des gens. J'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec Bernard-Henri Lévy, à qui je lui ai reproché plusieurs fois par SMS, et puis on s'est croisés, on en a parlé, d'aller débattre avec Éric Zemmour sur CNews. Et bon, évidemment, la discussion s'est plutôt mal terminée que bien. Mais jamais on n'a donné à Jean-Marie Le Pen une émission de télévision.
Quotidienne.
Et tout le monde vient défiler devant lui, débattre devant lui.
C'était un candidat déclaré, acteur officiel.
C'est
l'arbitre, débat politique en France,
c'est l'arbitre
qui n'est pas encore
intellectuel
le cas
et politique en France. Mais comment on est arrivé à ça? Je cite une phrase d'Éric Zemmour qui dit « Les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, pensent tous, même ceux qui ne disent rien, que les djihadistes sont des bons musulmans. C'est du racisme intégral. C'est scandaleux de laisser dire, de continuer à donner une tribune à Éric Zemmour, comme si ce qu'il disait était devenu banal. Nous sommes devenus fous, et vous avez raison, Éric, et j'en ai énormément
Patrick. Vous
bien sûr que les médias ont leur part de responsabilité. Évidemment, nous avons fabriqué Éric Zemmour. Et l'autocritique là-dessus, Tintin. Et puis,
Avons fabriqué Éric Zemmour, comment?
En lui donnant la parole, en ne le contrariant pas, en lui laissant dire n'importe quoi. L'interview du Corriere della Sera, ça a été un scandale. Un scandale. Moi, j'étais à RTL à l'époque. Eh bien, le lendemain matin...
Il a été viré d'Italie après ça. Hein.
Le lendemain matin...
Éric Zemmour est allé sur RTL et Yves Calvi a fait une interview. Éric, vous êtes mal expliqué, on ne vous a pas bien compris. Vous pouvez nous expliquer, Éric? Bon. Écoutez, c'est pitoyable.
Oui, alors,
je me fais des copains.
Je signe tout ce qui vient d'être dit par mes deux confrères. Et je rajouterai quelque chose de moins grave dans l'analyse, mais la droite réactionnaire très classique, ça c'est une droite anti-républicaine qui avait disparu depuis 1945 et qui revient, qui a toujours existé en France et qui revient, une droite qui pense que la République c'est la gueuse et qui déteste tout ce que la République a pu faire. Et cette droite est fascinée,
elle est
fascinée depuis toujours par... la capacité qu'a eu la gauche de gagner les batailles culturelles. Elle est fascinée par Gramsci, ce penseur italien qui a théorisé la bataille culturelle, les majorités culturelles. Et là, elle est en train d'essayer de faire pareil. Mais Zemmour, le soir à 19h, c'est 600 000 personnes. Yann Barthès en a deux fois plus, vous en avez beaucoup plus. France Inter, à la même heure, en a beaucoup plus. Et vous avez Valeurs Actuelles qui fait une sur Valeurs Actuelles qui doit vendre 40 000 exemplaires. Hein, là, le Nouvel Obs s'en vend 200 ou 300 000. Et Valeurs Actuelles fait des unes sur le phénomène Zemmour parce qu'il fait 600 000 téléspectateurs. Et il y a une mousse comme ça. Alors, la mousse existe, mais c'est de la mousse. Alors, moi, je dis, vous, Babette, présidente, vous avez plus de téléspectateurs.
Oui. Il manque Fabienne un programme.
Fabienne Synthèse, deux fois plus de présidente.
Mais c'est un piège redoutable.
Faisons de la mousse.
Est-ce que j'aurais dû faire la chronique? Est-ce qu'on aurait dû y passer 5 minutes?
Oui, voilà. C'est un cercle vicieux.
Exactement. Oh, c'est bien.
Mais c'est bien.
Ça dépend. Oui, c'est bien de l'avoir dit.
Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat, c'est paru lui.
Je peux rajouter un mot sans être impoli. Il y a dans ce livre 4 chapitres sur Nicolas Hulot et j'essaie de donner un peu plus de perspective à la plainte qui a été déposée contre lui pour viol, parce que je trouve que là aussi les médias se sont détournés de la victime, ne veulent d'ailleurs toujours pas en parler, et j'essaie d'éclairer un peu cette scène.
Vous posez beaucoup de questions sans apporter de réponse,
je n'apporte pas de réponse.
Il y a des enquêtes journalistiques qui sont faites.
Non, il n'y en a pas. Là-dessus, il n'y en a pas.
Il y en a qui sont en train d'être faites.
Quand
elles seront faites, elles sortiront.
Et en tout cas, il y a 4 chapitres qui amènent, je pense, à se poser des questions sur la personne qui a porté plainte contre Nicolas Hulot. Et nous sommes sortis de cette histoire, je trouve, pas très glorieusement.
Mmh. Et puis, il y a aussi les coulisses de votre rencontre avec Nicolas Sarkozy, qui vous passe un sacré savon.
Ah oui, ça, c'est bien.
Il
engueule tout le monde.
C'est l'une des bonnes raisons de lire Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat, pour revivre un peu les coulisses de...
Ah, on a toute la description par minute, c'est formidable. J'ai adoré ce chapitre.
Exactement. C'est à partir de la page 140, à peu près. Jean-Michel, merci, vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous.
Votre story du jour est consacrée aux femmes et aux hommes de police secours.
Le 17, ce n'est pas seulement un numéro. Nous avons voulu montrer les visages derrière ce nombre. Police secours, ce sont les premiers à intervenir quand vous appelez le 17, de 21h à 5h du matin. Nous les avons suivis avec Audrey Payas. Première intervention, un véhicule zigzag. Les policiers dégainent le gyrophare, la voiture ne s'arrête pas et s'engouffre dans une cité chaude de Melun avant d'être finalement stoppée dans une impasse. Une situation périlleuse pour la brigade.
Tu mets tes mains en évidence. Les mains en évidence.
Il est fini.
Fais-le sortir, là.
Allez.
Quand on vous demande de vous arrêter, vous arrêtez. Ça refuse d'obtempérer, monsieur.
On rentre la
communauté de l'alcool. Allez-y, encore. C'est bon. Ouais, c'est bon.
On va procéder à la vérification éthiométrique au poste, monsieur. Vous venez avec nous.
Attends. Non, c'est pas ça.
On est dans un quartier qui semble sensible. C'est important de réagir très vite.
Oui, avant que tout le monde redescende.
Il y a déjà des jeunes qui sont pas très loin, on entend des bruits.
Il y en a qui arrivent.
Cette nuit-là, William, Stéphane et Francis interviendront près d'une dizaine de fois. Chaque nuit, ils sont les témoins d'une réalité sociale éprouvante et douloureuse, mais invisible la journée. Conflits de voisinage, violences conjugales, poubelles brûlées et même des problèmes de stationnement. Cette fois-ci, pas d'amende ni de fourrière. Les policiers privilégient la pédagogie plutôt que l'amende de 200 euros.
Ils sont cool quand même. Franchement.
Merci.
D'habitude, quand on voit la police, on s'est dit automatiquement, va... Ouais. C'est dit tac, quoi. Ouais. Mais là, c'est... Franchement, je l'ai dit merci.
30 minutes avant la fin de leur vacation, les policiers voient 2 voitures de sport sur un parking. Trafic de stupéfiants, tapage nocturne, voiture volée. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver.
La voiture, elle était à l'arrêt, éteinte, fermée, coupée. Il n'y a aucun droit. Même là, j'ai bu 28 verres d'alcool. J'ai pas roulé avec la voiture. Vous n'avez aucun droit. On n'a rien fait. Non, pas pour l'instant. Demain, après-demain, aujourd'hui, tout de suite, dans 20 minutes, il ne va rien se passer. Nous, on est posé. Et c'est nous qu'on vient voir. Je comprends pas.
L'un des jeunes nous parle de contrôle au faciès en rappelant qu'il s'est fait arrêter 2 fois dans la même journée. Les policiers, eux, ne comprennent pas pourquoi ces adolescents sont sur un parking à 3h30 du matin. William rejette les critiques mais reconnaît qu'il existe des brebis galeuses qui peuvent parfois nuire à la police.
Partout, hein, y a des bons policiers, des très bons policiers. Puis malheureusement, y en a certains qui usent peut-être du pouvoir qu'on a, et c'est regrettable. Après, on s'étonne que les gens disent « oui, mais la police, ils font ce qu'ils veulent, justement, ils contrôlent qui ils veulent ». Non, c'est tout simplement dommage.
La plus grande crainte de William, vivre le sort de Jean-Baptiste Salvin et de sa femme, commandant de police au Mureau. Ils sont assassinés par un terroriste à Magnanville le 13 juin 2016 en rentrant chez eux. Son autre peur, voir sa photo et son adresse en bas d'une barre d'immeuble, comme l'ont vécu d'autres collègues.
C'est toute la difficulté du travail de proximité de la police nationale, police secours, très dur.
C'est un travail... Il faut être courageux pour faire cela et avoir le sens du service public, c'est une évidence. Oui.
Je veux juste rappeler un chiffre, 97 centimes. 97 centimes, c'est la prime que ces policiers ont par heure la nuit.
Et ils font des vacations
Ils font des
21 heures à 8h du matin.
21h à 5h du matin.
5h du matin.
Et il y a une réflexion au sein de la police nationale et du ministère pour passer ces vacations de 8h à 12h. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être un danger pour les policiers, mais aussi pour les gens sur lesquels ils interviennent, pour les victimes et pour les assaillants aussi.
Merci beaucoup, Mohamed Bouafsi. Marion, c'était il y a 20 ans.
1h17 qui ont bouleversé les États-Unis et changé la face du monde. Le 11 septembre 2001, deux avions détournés frappent de plein fouet les tours jumelles du World Trade Center à New York. Il est 8h46 et 9h03 du matin. Deux autres avions suivent. L'un s'écrase sur le Pentagone à Washington, l'autre dans un champ de Pennsylvanie alors qu'il visait le Capitole. Bilan 2977 morts, 5000 blessés, un bilan qui va doubler en 20 ans. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Comment une poignée d'hommes, 19 terroristes se réclamant d'Al-Qaïda, a pu organiser depuis le fin fond de l'Afghanistan pareille attaque? La réaction des États-Unis ne se fait pas attendre. Un mois plus tard, l'armée américaine envahit l'Afghanistan. Objectif de l'administration Bush, attaquer Oussama Ben Laden, leader d'Al-Qaïda. Il faudra 10 ans pour que les troupes américaines finissent par localiser et tuer, le 2 mai 2011, Oussama Ben Laden, réfugié au Pakistan voisin. Et 20 ans pour que les États-Unis retirent définitivement, le 31 août dernier, d'Afghanistan. Mais l'histoire et le deuil sont loin d'être finis. Ainsi, deux nouvelles victimes des attentats du World Trade Center viennent officiellement d'être identifiées 20 ans après.
More victims identified today using the latest DNA technology.
One of them, a woman from Long Island. She was on the 94th floor of the North Tower when the planes hit.
How long did you hold on to hope before you had to accept?
Years.
Years.
Years, yeah. That she was just out there somewhere.
Voilà, il faut savoir que 40% des dépouilles des attentats du World Trade Center doivent encore être identifiées. C'est le rôle de l'Institut médical de New York, dirigé par une femme, Barbara Sampson. Depuis presque 20 ans, son bureau mène discrètement l'enquête de médecine légale la plus importante et la plus complexe de l'histoire du pays, testant les 22 000 partie de restes humains, des lambeaux de corps récupérés dans les décombres de Ground Zero. Il se pourrait donc, grâce aux nouvelles technologies de séquençage de l'ADN, que les familles des victimes puissent enfin enterrer et honorer leurs défunts.
Pour revenir sur cette attaque qui a changé le cours de l'histoire, on accueille un grand reporter de Radio France, envoyé spécial de France Bleu à l'époque des faits, Grégory Philips. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir.
Désormais directeur adjoint de la rédaction de France Culture, en 2001, vous étiez l'envoyé spécial de France Bleu à New York.
Radio France.
De France Bleu, non?
J'étais présentateur des journaux à France Bleu et j'étais parti là-bas avec les envoyés spéciaux de Radio France.
Et vous réalisez 20 ans plus tard le podcast 11 septembre, l'enquête pour France Inter. Thomas Legrand, le 11 septembre 2001, vous étiez correspondant de RTL.
À New York.
À New York. On va revenir longuement sur cet événement historique qui a changé non seulement le cours de l'histoire, mais le cours de vos carrières. D'abord, un mot sur cette question d'identification des victimes, un travail qui dure depuis 20 ans et qui n'est pas encore achevé.
C'est incroyable. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le 11 septembre n'est pas terminé pour encore des centaines et des milliers de gens. Il y a effectivement ces corps qui n'ont pas été identifiés. Il y a aussi ces dizaines et centaines de first responders, comme on dit aux États-Unis,
de pompiers,
de policiers, de secouristes.
Tous ceux qui ont déblayé les gravats.
Qui sont malades, qui ont contracté des cancers du poumon, qui souffrent de dépression. Il y a eu des suicides, beaucoup.
Depuis 20 ans, le 11 septembre a fait plus de victimes des suites des attentats que de l'attaque elle-même.
2977 morts le jour même et quasiment 3000 dans les deux décennies qui ont suivi. Et si notamment on a fait un podcast à France Inter consacré au 11 septembre, c'est pas simplement quelque chose qui est dans les livres d'histoire. Enfin, c'est quelque chose qui a encore lieu, qui nous parle encore. Et puis, on le voit évidemment avec l'actualité en Afghanistan.
Podcast qui est remarquable, vraiment.
C'est l'apparition de cancer chez ces pompiers, chez ces first responders, qui a notamment conduit à élargir le fonds d'indemnisation au départ qui n'était ouvert qu'aux rescapés des attentats et aux proches des victimes. Un fonds qui a bien failli ne pas être prolongé, mais un discours a tout changé.
Behind me. A filled room of 9/11 first responders, and in front of me, a nearly empty Congress. They responded in 5 seconds. They did their jobs with courage, grace, tenacity, humility. 18 years later, do yours.
L'émotion de John Stewart au Capitole, c'était en 2019, c'est vraiment la preuve, effectivement, que le drame reste quotidiennement présent dans la vie des Américains.
Et là, quand l'humoriste fait ce discours au Congrès, il le fait devant une salle de parlementaires quasiment vide. Et autour de lui, il y a plusieurs dizaines de pompiers, dont certains sont très malades. Et il dit, mais quelle honte pour cette institution, quelle honte. On devrait flipper l'audience, c'est-à-dire que... vous devriez, les pompiers devraient être en haut et c'est vous qui devrez interroger. Dans un moment incroyable, et d'ailleurs le fonds d'indemnisation a finalement été prolongé
jusqu'en 2090. 11 septembre 2001, vous racontez que l'actu ce matin-là, c'était la météo. Un grand ciel bleu, la primaire démocrate pour désigner le maire de New York, une journée très calme. Thomas Legrand, vous déposez comme tous les matins votre fils à l'école, vous passez devant Washington Square, dans le sud de Manhattan, et vous entendez un avion passer très bas. Vous voyez les deux tours, un énorme trou dans la tour nord, vous pensez à un accident. Quelques minutes plus tard, vous êtes en direct sur RTL, votre premier direct.
Thomas Legrand, vous êtes sur place.
Oui, c'est une catastrophe extraordinaire, incroyable, qui se déroule en ce moment. C'est il y a à peine 10 minutes, un avion, on ne sait pas encore de quelle sorte, a percuté la tour nord du World Trade Center. On voit une énorme césure, un énorme trou à peu près 350 mètres du sol, donc très haut. Les flammes sortent, tout New York est pétrifié.
Difficile de garder son calme, difficile de trouver les mots. Ce qui est sûr, c'est que vous saviez à ce moment-là que vous viviez un moment qui allait changer le cours de l'histoire. Ça, vous en aviez le...
Pas à ce moment-là. Pas quand il y a... Là, j'avais l'impression à ce moment-là de vivre un accident extraordinaire. La tour nord percutée par, je pensais à ce moment-là, un avion de tourisme. On n'a pas les dimensions...
Ouais. Non. Mais vous n'êtes pas le seul
dans la
télé,
tête.
On ne savait pas si c'était un avion.
Moi, j'ai levé la tête, j'ai entendu boum, j'ai levé la tête, j'avais les tours devant moi. J'étais à 1 km de tours qui font 500 mètres. Donc elle était devant moi et je vois un trou.
George Bush lui-même.
Je vois un trou et j'ai pas les dimensions de la tour en tête et donc je peux pas imaginer que ça puisse être un avion de ligne qui a été détourné. On comprend quelques minutes après, on comprend tous quand un deuxième avion. Et je vois pas le deuxième avion, je vois une explosion et je comprends pas. Je me dis, mais est-ce que c'est l'incendie du premier qui provoque une explosion? Et puis voilà, on le sait très rapidement et là, on sait qu'on est l'objet d'une attaque. Et je dis parce que quand on est correspondant, on habite sur place. Moi, je sortais de 5 ans de reportage pour le service étranger, les Balkans, etc. Il se passait quelque chose, on m'y envoyait, j'y allais, ma famille restait bien au chaud à Paris. Voilà, on y allait, j'y allais avec mes collègues. Bon, là, c'est pas pareil. On vit la chose comme les habitants, parce qu'on est des habitants.
L'une des images que l'on retient de cette journée, c'est le visage de George Bush lorsqu'il est alerté. L'homme qui vient le prévenir, c'est son chef de cabinet que vous avez rencontré, Grégory, et qui vous explique comment il a pesé chaque mot.
J'ai décidé d'être très prudent sur ce que j'allais dire au président parce que je ne voulais pas lui laisser la possibilité de discuter avec moi. Il était devant des micros, je savais qu'il était face à des écoliers de classe élémentaire et des journalistes. J'ai décidé de lui donner deux infos. Je me suis penché et lui ai dit à l'oreille, un second avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée.
George Bush a réagi exactement comme il le fallait à ce moment-là.
En fait, Card nous raconte ça. On a mis pas mal de temps à le convaincre avec Charlotte Matou de témoigner dans ce podcast, mais il raconte, c'est incroyable, comment il pèse chaque mot pour s'adresser au président et lui souffler ces quelques mots dans l'oreille, et surtout que Bush n'ait aucune réaction face aux gamins de l'école primaire Emily Booker et face aux poules presse qui suit le président. Et donc il dit ces quelques mots, « America is under attack », il se recule pour être sûr que la conversation ne s'engage pas. Et là, on voit effectivement la tête de Bush.
Le regard ça, perdu.
Ça mouline, quoi. Ça mouline et il lui faut...
ça mouline.
Mais il lui faut quelques secondes pour réaliser. Parce que quand Bush entre dans la salle de classe, il sait qu'un petit avion...
Voilà, il pense que c'est un avion touriste.
Tout le monde le pense.
Et on lui dit, avant qu'il rentre dans la classe, « Monsieur le Président, il y a eu un accident à New York. Un avion, visiblement, a percuté une des tours jumelles. » Il rentre dans la classe et à ce moment-là, il dit, « Bon, c'est un accident, c'est terrible, mais... » Il continue. Et là, il comprend que l'Amérique est attaquée.
Non, c'est exactement ce que je voulais dire. Le podcast est extraordinaire. Voilà.
Grégory Philips a rencontré des vétérans également de cette guerre, et notamment celui qui restera dans l'histoire pour avoir abattu Oussama Ben Laden, Rob O'Neill.
On the compound, it was being relayed to us. So in addition to what we were also hearing things about how things were going.
I went that way. And when I went that way, I'm in a doorway, and there's Osama bin Laden. And I shot him in the head twice, and then once more on the floor. And one of my guys came up to me, and I'm standing there, and I'm just kind of stunned. And he said, yeah, you just killed Osama bin Laden. Your life just changed. Now let's get to work.
Des soldats toujours très marqués par cette guerre.
Oui, alors lui, il a joué un rôle, extraordinaire dans la traque de Ben Laden, puisqu'il est celui qui tire 3 balles sur le dirigeant d'Al-Qaïda au Pakistan. Donc il y a Rob O'Neill, mais il y en a d'autres qu'on a rencontrés aussi. Je pense notamment à un vétéran qui s'appelle Clarence Singleton, que je suis allé voir chez lui en Virginie, dans une petite maison, vous savez, enfin vraiment comme dans un film américain, quoi, la pelouse, le drapeau devant, etc. Et lui, c'était un vétéran du Vietnam. Et en fait, il est entré dans un syndrome post-traumatique où tout se mélange, la guerre du Vietnam et le 11 septembre quand il s'est pris les tours sur la tête. Et enfin, quand je me retrouve dans ce salon de Clarence Singleton, transformé quasiment en mausolée du 11 septembre et de la guerre du Vietnam, vous prenez un pan d'Amérique dans la gueule, pardon pour l'expression, mais qui est phénoménal et tout ce... Enfin, voilà, ces 40 ans d'histoire contemporaine des États-Unis qui sont devant vous. Et d'ailleurs, dans une vitrine, Clarence a gardé les bottes qu'il portait le 11 septembre avec encore la poussière du World Trade Center dessus. Enfin, c'est des rencontres fortes et des gens qui, 20 ans après, en parlent encore avec une émotion qui est sidérante.
20 ans après, et un bilan de présence en Afghanistan terrible, Thomas Legrand.
Ah bah oui, le résultat, c'est que les talibans sont de retour au pouvoir. Alors, la réaction juste après, qu'on a couvert aussi en tant que correspondant, la réaction de l'Amérique, elle était, je veux dire, elle était compréhensible parce qu'il y avait une émotion très forte. Et moi, déjà, tous les Français, peut-être les Européens, on voyait les Américains très va-t-en-guerre. Déjà, on se disait, c'est normal, mais... c'est pas comme ça que les choses se règlent. On pouvait le percevoir, même si on pouvait pas imaginer un tel fiasco. Ça doit être le fait d'être européen et de connaître, d'avoir vécu les guerres de colonisation et de savoir qu'une guerre, à l'étranger comme ça, c'est pas des victoires politiques et il faut des victoires politiques.
Et pourtant, les Européens y sont allés.
Ils y sont allés. C'était pas possible. Après, il y a eu 2003 et les Européens, moins les Anglais, se sont opposés à l'Irak.
Et puis il y a le vol United Airlines 93, celui qui va également viser Washington à l'aide d'archives prêtées par le mémorial du 11 septembre qui est situé sur le site des anciennes tours. Vous avez, si j'ai envie de dire, redonné une existence, une voix aux héros de ce vol. Les derniers échanges téléphoniques permettent de comprendre ce qui s'est passé dans les toutes dernières minutes. Un jeune homme, par exemple, reçoit un coup de fil de sa mère qui vient de voir les infos et qui comprend qu'il est à bord d'un appareil qui lui aussi va viser l'Amérique au cœur.
Marc, c'est ta maman. Les infos, c'est que ton avion a été détourné par les terroristes. Ils projettent probablement d'utiliser l'avion pour frapper un site au sol. Donc si tu peux essayer de maîtriser ces gars, si tu peux, ils vont sûrement se servir de l'avion. Donc je dirais fonce et fais tout ton possible pour les maîtriser car ils sont déterminés. Essaye de me rappeler si tu peux. Tu connais le numéro ici. Ok, je t'aime mon cœur. Bye.
C'est dingue.
C'est dingue. Et donc, Mark Bingham et les 39 autres passagers se réunissent à l'arrière de l'appareil. Ils ont compris que l'appareil était détourné et qu'il va aller s'écraser quelque part. La direction est sans doute Washington, ils ne le savent pas à ce moment-là. Et ils décident d'agir et ils s'approchent du cockpit. Ils fracassent la porte avec un chariot de boissons. Il y a un combat qui dure quelques secondes. Le terroriste qui est aux manettes fait plonger l'appareil qui va s'écraser dans une prairie de Pennsylvanie. Et dans le podcast, alors, il y a ces archives qui sont incroyables prêtées par le mémorial. Et puis il y a aussi le récit des proches de ces 40 personnes qui racontent que quelques années après, et je crois que c'est en tout cas dans un média français la première fois qu'ils racontent ça, ils ont été convoqués par les enquêteurs du FBI et de la CIA pour entendre les voix à l'intérieur du cockpit, parce qu'il y a quelques secondes où on entend des cris, des jurons, une bataille. Et en fait, ils ont été convoqués, je crois, 4 ans après pour identifier exactement qui a fait quoi dans ce cockpit. Et on peut imaginer la douleur que ça doit être d'entendre les dernières secondes juste avant que l'avion ne s'écrase, quoi.
11 septembre, l'enquête. Excellente série podcast. En 8 épisodes, c'est en ligne sur franceinter.fr. Merci Grégory Philips. Vous restez tous les trois avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
On commence par, on repart des 20 ans des attentats du 11 septembre dans le 5 sur 5.
Avec un léger décalage, vous allez voir ce portrait étonnant. Depuis 2001, on a beaucoup parlé de la famille Ben Laden, les parents d'Oussama Ben Laden, ses frères. Mais connaissez-vous Omar Ben Laden ? Cet homme, c'est le fils du terroriste. Il a grandi auprès de son père. Il a vécu les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, c'est en France qu'on le retrouve, au Teilleul, dans la Manche. C'est un village de 1800 habitants, une église, une école, une pharmacie et quelques commerces, comme Ariel Brocante. Et dans cette boutique, on trouve des toiles d'Omar Ben Laden, le fils qui, aujourd'hui, vit en France, donc, qui peint les paysages normands, les paysages afghans de son enfance. Il signe OBL. Louis Amar et Camille Schmitt ont rencontré le patron d'Ariel Brocante. C'est devenu un ami d'Omar Ben Laden.
Omar Ben Laden a 40 ans, c'est le quatrième fils d'Oussama Ben Laden. Il a grandi avec lui en Afghanistan, dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, nichés dans les montagnes de Tora Bora. Très vite, il s'est éloigné de la lutte armée et a condamné le terrorisme. Aujourd'hui, il vit dans l'Orne. Lors du premier confinement, il s'est mis à la peinture. Et c'est ici, dans le petit village du Teilleul, que sont exposées ces toiles. Comment vous vous êtes retrouvé à exposer des toiles d'Omar Ben Laden ?
La famille Ben Laden était cliente du magasin et j'ai connu son épouse depuis 5 ans. Et un jour, Omar Ben Laden est venu dans le magasin aussi et il est venu acheter des choses. C'est un homme très grand, très costaud, mais je pense très fragile à l'intérieur. Et il faut du temps pour gagner son amitié et la relation avec lui.
Alors ce monsieur est ami d'Omar Ben Laden, je vous le disais, il nous le décrit avec beaucoup de bienveillance, mais bon, c'est étonnant, on est d'accord, que de retrouver le fils Ben Laden dans la campagne normande. Oui. Observez la réaction spontanée de ces touristes.
Do you know what OBL stands for?
No idea.
It's the painter. And his name is Omar Ben Laden.
You're joking.
I'm not.
No.
I don't believe it. Is it the son of Osama?
He lives here in France, a few kilometers away from here.
Ah, okay. Wow.
Doesn't matter what his father's done. He probably has nothing to do with what his father done. It's a strange feeling. Yeah, strange. I'd buy one of the paintings, wouldn't bother me.
Alors, les toiles d'Omar Ben Laden se vendent entre 700 et 1500 euros selon les formats. 900 euros par exemple pour cette toile signée OBL qui représente Tora Bora. Vous vous souvenez bien sûr autour de la table de la bataille de Tora Bora, cette montagne creusée de galeries, de grottes, un refuge pour les talibans en 2001 qui en firent leur place forte. Et vous revoyez là les détails des infrastructures à l'intérieur de la montagne. Eh bien, Omar Ben Laden y vivait avant le 11 septembre, jeune homme auprès de son père, avant de renoncer, de lui tourner le dos. Parce qu'on va être très clair ce soir quand même, nous parlons d'Omar Ben Laden avec beaucoup de sourire, de légèreté. Aujourd'hui, il renie évidemment complètement son père et les crimes qu'il a commis.
On quitte l'Afghanistan pour le Liban.
On quitte l'Afghanistan pour le Liban, où vous le savez, Babette, évidemment.
Le Liban qui dote d'un gouvernement.
Depuis aujourd'hui, on l'a appris. Enfin, un gouvernement après 13 mois de flou, de tractations politiques. 13 mois après l'explosion spectaculaire du port de Beyrouth, une catastrophe qui avait attiré les regards du monde entier et qui avait mis la lumière sur la situation politique, sociale, économique non moins catastrophique du pays. Souvenez-vous, Emmanuel Macron à Beyrouth avait même tensé les dirigeants libanais.
C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Les dirigeants, les forces politiques libanaises ont aujourd'hui une démonstration à faire.
Le quotidien des Libanais aujourd'hui, ce sont les pénuries, médicaments, eau, électricité. Regardez même cette prière qui a été organisée dans une station-service devant les caméras. Ne soyons pas dupes, mais une vraie prière tout de même, avec un vrai imam. Il prie pour le retour de l'essence. Et écoutez ces habitants de Beyrouth qui font face aux pénuries.
For 10 days we come to this petrol station and they say there's no petrol. The government checked and it turned out he has 24,000 liters.
I take medication for a chronic disease we were told we may find in Beyrouth, but for double the price, and even then we still couldn't get it.
Ils disent qu'il n'y a pas de générateur, donc ils ne peuvent pas nous envoyer d'eau. Que voulez-vous? Il n'y a rien. Si je veux prendre quelque chose du frigidaire... Mon Dieu, il faut que je fasse attention à ne pas trop l'ouvrir pour que le froid se conserve.
Aujourd'hui, ils sont nombreux à tenter de quitter le pays. Une autre image parlante, la ville de Beyrouth, la nuit, pas d'électricité, pas de lumière. Des plans s'organisent pour importer depuis les pays voisins, parfois en passant par la Syrie, ce qui remet Damas et Bachar al-Assad sur le devant de la scène. En Syrie, justement, on connaît bien cette problématique des coupures d'électricité depuis plusieurs années, à tel point que ça a inspiré le groupe de musique Safar.
يا ويل ويلي شعب الشاعر يا بنيا ونجوم ليلي قوي هالدرب عليا
C'est le tube de l'été en Syrie, Yawel Willy, Au malheur, mon malheur, près de 8 millions de vues pour ces musiciens qui se jouent des coupures incessantes et du système D pour y remédier.
On termine avec un sondage qui va alimenter les conversations et les débats.
Ah non, point douter. Alors vous croyez que l'époque est au féminisme, à l'égalité totale entre hommes et femmes, et pourtant il y a encore un peu de route sur le chemin de la libération des femmes. 9 femmes sur 10 préfèrent que les hommes fassent le premier pas. 18% trouvent qu'une femme qui drague s'est déplacée. On parle de drague, de séduction. Écoutez déjà cette archive de 1960, les conseils qu'on donnait à l'époque.
Le charme consiste, même si vous êtes très occupé, allô, d'écouter votre interlocuteur avec bienveillance. De ne pas trop parler la bouche pleine. De prendre moins de confiture et d'être plus sucré. Mais oui, mon chéri, pour un tout petit incident, ne devenez pas la dame qui prend la situation en main, fait acte d'autorité, prétend que ceci est trop chaud ou trop froid, accablant ainsi son pauvre compagnon d'un complexe d'infériorité.
Bon, alors je retire ce que j'ai dit, on a un peu évolué quand même. Vera Louderie et Camille Schmitt ont interrogé quelques Parisiennes ce matin sur le premier pas. Il y a des hommes aussi qui glissent un message à la fin.
Pas la fille qui va sauter sur le garçon.
C'est plus galant quand c'est l'homme qui aborde une femme.
On va un peu faire une technique pour faire genre qu'on n'y va pas, mais on y va un peu. On va envoyer quelqu'un, on va faire le premier pas, mais par intermédiaire. Mais on aime bien quand les garçons font le premier pas.
Il faut laisser parler son cœur. Et quand on a envie d'aller vers quelqu'un, il faut savoir aller lui dire.
On se sent assez powerful quand on fait ça. On
propose un date et ça se fait. Enfin, ça s'est fait en l'occurrence.
Ça m'est déjà arrivé. C'est toujours un peu difficile, mais... Je me dis qu'il vaut mieux tenter et que ça ne marche pas, que ne rien faire et de regretter après.
Je suis très timide, donc du coup, c'est parfait. Je les encourage toutes à faire le premier pas.
Au minimum 50-50. Et puis, ouais, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui soient un peu plus entreprenantes envers moi.
Bon, 50-50 ? On reste d'accord sur 50-50 ?
Moi, c'est déjà fait, hein, mais je veux bien me dévouer.
50-50,
hein.
C'est une belle association.
On devrait se retrouver.
Le quart d'heure américain en 82, c'était un film avec Gérard Jugnot, qui est notre invité de la suite, aux côtés de Marianne Chazelle et Artus. Bertrand Hardy arrive, il a un truc à dire.
Bah oui, il va
on n'a pas le temps. Bisous, Bertrand.
Super.
Merci Jean-Michel, Thomas Legrand et Grégory Philippe. À tout de suite pour la suite de C'est à vous.